13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. Vous connaissez le principe, Tout Terrain, c'est l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Et l'actualité cette semaine, c'est bien sûr Notre-Dame en proie aux flammes et toute la rédaction d'Europe 1 mobilisée depuis lundi soir pour vous faire vivre cet événement qui a touché au cœur le monde entier. Encore ce soir, je vous le disais, ce concert pour récolter des dons, concert aux Invalides retransmis sur France 2 auquel Europe 1 s'associe. Large page donc dans Tout Terrain sur les coulisses des deux spéciales d'Europe 1 lundi soir et mardi matin avec les reporters qui ont multiplié les directs et les témoignages de ses fidèles en prière alors que la cathédrale brûlait. Thierry Geffrotin nous racontera ce moment de grâce à 8h mardi matin quand le violoncelliste Gauthier Capuçon a fait résonner son instrument face au tour de Notre-Dame sur Europe 1. Et pour terminer Tout Terrain, Simon Rubin nous racontera le combat d'une jeune femme iranienne, Sadaf Kadem, pour pouvoir boxer. Un combat, vous l'entendrez, qui ne se joue pas que sur le ring. Voilà pour le programme. Tout terrain, c'est parti.
Europe 1, Tout terrain, Fabienne Lemoyle.
Et nous allons revenir largement dans Tout terrain sur cet incendie particulièrement spectaculaire qui a touché Notre-Dame de Paris. Avec les reporters, nous allons vous raconter comment toute la rédaction d'Europe 1 s'est mobilisée pour vous faire vivre cet événement qui a touché au cœur, je vous le disais, le monde entier. Notre-Dame menacée jusque dans sa structure. Une mobilisation qui a commencé dès 19h30 lundi soir quand Europe 1 a basculé en édition spéciale avec Mathieu Béliard.
Immense inquiétude ce soir au cœur de la ville de Paris. La cathédrale Notre-Dame est en feu. La flèche de la cathédrale, son point culminant, s'est effondrée. À l'heure où nous parlons, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre en train d'essayer de circonscrire ce feu qui est en train de ravager ce monument au cœur de la capitale. Les caméras du monde entier sont braquées sur Paris, sur la France.
Voilà, Europe 1 en édition spéciale donc à partir de 19h30 avec, on l'a entendu, Mathieu Béliard aux commandes et bien sûr les premiers sur le terrain pour vous faire vivre en direct cet événement majeur, c'était bien sûr les journalistes du service reportage. Alors ils sont trois avec moi aujourd'hui pour vous raconter les coulisses de leur travail pour couvrir cet incendie particulièrement spectaculaire qui a touché un joyau de notre patrimoine. Mathieu Bock, Jean-Jacques Héry et Théo Manval. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour Fabienne.
Alors, reporter oblige, je vais te dire, vous êtes deux sur le terrain aujourd'hui. Il n'y a que Jean-Jacques Héry en studio avec moi. Je vais d'abord commencer avec vous Théo Manval. On va revenir à lundi soir, il est un peu plus de 19h. Là, vous êtes à la rédaction, on vous demande de partir. Racontez-nous ce qui déclenche tout.
Ce sont ces images qu'on a commencé à voir sur les réseaux sociaux, en fait, des gens, des passants qui étaient autour de Notre-Dame qui ont commencé à poster des images de la fumée qui se dégageait et puis de l'incendie. Il y a évidemment toujours des gens qui veillent sur Internet à Europe 1 et dans les médias. Et donc là, on nous dit apparemment, il se passe quelque chose à Notre-Dame. On n'a pas vraiment l'idée de l'ampleur, mais on nous dit voilà, c'est quand même Notre-Dame, un incendie potentiellement. Bah, vous partez à trois, donc avec Jean-Jacques et Mathieu. Je suis parti en deux roues, moi, avec Mathieu. On s'est dirigé vers l'autre bout de Paris, puisqu'on est tout à l'ouest en scooter. Et c'est qu'en arrivant finalement qu'on a pris conscience de l'ampleur de l'incendie.
Et pour être franc, moi je pensais rester que quelques dizaines de minutes. À mon avis, Jean-Jacques, c'était un peu la même chose. On pensait aider Théo dans un premier temps, juste pendant un temps assez court, et ensuite on pensait partir et le laisser tout seul. Et on n'avait pas compris que ça serait quelque chose de cette ampleur-là. Quoi.
Absolument, parce
c'est
que
ça,
moi,
Jean-Jacques. En gros, personne ne prend la mesure, bien évidemment, à ce moment-là, du scénario qui va se dérouler une bonne partie de la nuit.
Bah, c'est exactement ce que dit Mathieu. On avait vu que ça fumait, qu'il y avait un incendie, mais on s'est dit, c'est en plein centre de Paris, c'est Notre-Dame, ça va rapidement être pris en charge, rapidement éteint. On est resté jusqu'à 1h ou 2h du matin.
Alors, le premier à intervenir sur l'antenne, c'est vous, Théo Manval. Il est alors 19h42.
Impressionnant incendie, là. Et sur le pont Saint-Michel, on retrouve Théo Manval, envoyé spécial de la rédaction d'Europe 1. Bonsoir Théo.
Bonsoir Mathieu.
Que voyez-vous? Décrivez-nous la situation.
Mais ce sont ces images que vous venez de décrire. La charpente arrière de Notre-Dame qui est en proie aux flammes, qui est dévastée. Et cet immense panache de fumée qu'on a pu voir en arrivant ici jusqu'à Notre-Dame, depuis l'autre bout de Paris, depuis l'ouest de Paris, la fumée est tellement épaisse qu'on a même des projections de morceaux de cendres qui tombent sur l'eau.
Voilà Théo, alors, on entend que vous êtes au téléphone. On va expliquer après que les conditions pour émettre sont difficiles. Vous l'avez dit, vous commencez à prendre la mesure des événements en approchant parce que c'est même physique.
Oui, uniquement en arrivant, parce qu'en fait, on était donc en deux roues avec Mathieu. On voyait de la fumée dans le ciel de Paris. Et ce que je raconte effectivement dans cette intervention, on avait des petits morceaux de cendres qui arrivaient sur la visière du casque. Donc, on se doutait que ça allait être assez gros. Mais c'est quand on a fait le dernier virage en arrivant du boulevard Saint-Michel, où là, on a pour la première fois vu Notre-Dame. Et là, on a tout de suite compris, comme le disait Jean-Jacques tout à l'heure, qu'on allait rester peut-être toute la nuit, parce que c'était juste incroyable de voir la charpente en flammes. Mais on voyait vraiment des flammes de plusieurs mètres de haut et cet immense nuage de fumée. Et là, on a tout de suite compris que c'était déjà largement hors de contrôle et que c'était vraiment très très grave.
Alors Mathieu Bock, vous intervenez aussi, ou plutôt, j'ai envie de dire, on va l'entendre, vous tentez d'intervenir. Il est 20h04 et ça va couper.
L'un de nos autres envoyés spéciaux, Mathieu Bock, est au pied de la cathédrale Notre-Dame de Paris avec des Parisiens. Mathieu Bock, bonsoir.
Oui, bonsoir Mathieu. Effectivement, je me trouve avec Tim qui était à Vélib et qui s'est arrêté.
Un patrimoine énorme qui est dans le bâtiment.
Mathieu Bock, la liaison, et on le comprend évidemment, beaucoup de monde sur place, beaucoup de monde.
Voilà, on l'entend Mathieu, ça coupe, c'est vraiment compliqué de travailler. Vous êtes tous au téléphone d'ailleurs au début, alors que pourtant, vous avez avec vous le matériel qui vous permet normalement d'émettre avec un son qui est comme celui qu'on a actuellement en studio.
C'est exactement ce matériel que j'utilise actuellement pour vous parler. C'est ce qu'on appelle un Agra, c'est notre enregistreur. Et ça nous permet d'être en direct grâce à la 4G ou à la 3G, d'avoir un son, vous l'entendez, quasiment parfait. Et là, vous l'imaginez, ce soir-là, il y avait des centaines, peut-être même des milliers en fait, de personnes qui étaient là, qui prenaient des photos, qui appelaient leurs proches pour leur raconter, parce qu'ils avaient même eux-mêmes du mal à réaliser ce qui se passait. Et puis il y en a qui filmaient, qui faisaient un Facebook Live.
Donc les réseaux sont saturés en fait.
Et donc les réseaux étaient très rapidement saturés. On n'avait même plus de 3G ni de 4G, donc impossible d'avoir un son propre et un son clair. Vous l'avez entendu, même une communication téléphonique normale avait du mal à passer.
Alors évidemment, l'idée, c'est bien sûr de quadriller la zone pour trouver l'endroit d'où l'on peut observer le mieux l'incendie, pour raconter aux auditeurs ce qui est en train de se passer sous vos yeux. Et là, Jean-Jacques Héry, vous entrez en scène et vous allez multiplier les interventions, vous aussi d'ailleurs, le plus souvent au téléphone. D'abord, 19h53.
Nous retournons simplement d'un mot sur place avec Jean-Jacques Héry, qui est l'un de nos envoyés spéciaux au pied de la cathédrale Notre-Dame. Où êtes-vous, Jean-Jacques ?
Écoutez, je me trouve sur un pont, pas très loin de Saint-Michel, sur le pont qui relie Saint-Michel et Île de la Cité. Et évidemment, un périmètre de sécurité a été instauré autour de la cathédrale.
Deuxième intervention, 20h52.
Jean-Jacques, vous êtes toujours à quelques dizaines de mètres de la cathédrale.
J'ai pu m'approcher en fait. Je me trouve maintenant sur le parvis, juste en face de la cathédrale. Et c'est là qu'à l'instant, nous avons vu Emmanuel Macron venir longuement.
Puis 21h28.
On a vu tout à l'heure des flammes énormes, comme si l'incendie redémarrait, alors qu'on avait pu croire un instant qu'il se calmait. On voit que les opérations de secours sont en train de se déployer. On aperçoit de nombreuses silhouettes avec des lampes torches qui s'échinent à courir sur la structure vraiment de la cathédrale. Cet incendie, d'après ce qu'on peut voir lorsqu'on est au pied de la cathédrale, est loin et est sans doute très loin d'être terminé.
Si j'ai pris ces trois extraits de vos interventions, Jean-Jacques, c'est pour qu'on prenne la mesure de la difficulté à se déplacer et de la nécessité de se rapprocher. Par exemple, pour ce dernier direct, vous êtes où précisément ?
Je suis sur le parvis de Notre-Dame, réellement au pied de la cathédrale.
Et vous voyez quoi ?
Contrairement à ce que racontait Théo tout à l'heure, moi je ne vois pas du tout la même chose que lui. Théo est de l'autre côté de la scène.
Il va nous le raconter.
Il regarde la cathédrale de profil, donc il voit cette charpente qui brûle. Moi, je suis vraiment en face de la façade. Donc je vois ces deux tours et je vois des espèces de lueurs rougeâtres parce que c'est derrière ces tours. Donc à un niveau plus bas que ça brûle. Et finalement, moi je ne vois pas réellement ces images impressionnantes qu'on a pu voir sur toutes les télés, sur tous les réseaux sociaux, etc. Et quand ça s'enflamme effectivement dans la tour, ça n'a pas duré très longtemps, mais ça s'est enflammé dans la tour, donc à gauche de la façade. C'est ce que je pouvais voir moi. Et c'est là que j'ai vu vraiment des grosses flammes. Mais c'est le seul moment où moi... De là où je suis, au pied de la cathédrale, je vois des énormes flammes.
Et là, donc, les policiers vous ont autorisé à passer dans ce périmètre.
C'était compliqué parce qu'au début, quand je suis arrivé, il y a énormément de monde partout, sur les quais de Seine, sur les ponts, etc. Ensuite, les policiers évacuent les ponts. Et finalement, en insistant, nous et certains de mes collègues de la presse, on a pu réussir à passer sur une île de la cité qui était complètement désertée. Tout le monde avait été évacué. On était une soixantaine de journalistes et puis il y avait les élus, les officiels et Emmanuel Macron notamment qui sont venus. L'idée, c'était vraiment de laisser toute place aux pompiers pour privilégier uniquement les opérations de secours.
On poursuit ce tout-terrain très largement consacré, vous l'aurez compris, à la mobilisation de la rédaction pour vous faire vivre cet événement qui a bouleversé le monde entier, parce qu'il faut imaginer que lundi soir, Europe 1 est en édition spéciale, mais sur toutes les chaînes du monde entier, on voit cette cathédrale ravagée par les flammes, la flèche qui s'effondre juste avant 20h et le feu qui menace jusqu'à la structure de l'édifice. On va continuer à vous raconter les coulisses de ces événements au plus près.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Jusqu'à 14h, vous écoutez Tout Terrain, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte avec vous, Fabienne Lemoyle.
Retour dans Tout Terrain sur la mobilisation de la rédaction d'Europe 1 qui, depuis lundi soir, vous a donc fait vivre cet incendie particulièrement spectaculaire de Notre-Dame de Paris. Je le disais, le feu qui a menacé jusqu'à la structure de l'édifice avec, heureusement, pas de victimes et Paris touché au cœur. Nous sommes donc avec trois des reporters qui étaient sur place lundi soir, Mathieu Bock, Théo Manval, Jean-Jacques Herry. J'ai juste envie de vous demander comment vous avez vécu cet événement, parce que on est à Paris, c'est votre ville, avec des gens très émus autour de vous, Mathieu Bock.
Oui, moi j'étais place Saint-Michel, où il y avait plusieurs centaines de personnes qui étaient là. C'était très compliqué parce que la circulation n'avait pas été coupée. Donc les bus arrivaient, les voitures arrivaient, les scooters arrivaient et tout le monde voulait s'arrêter. Et ça a tendu la situation. Les policiers ont commencé à s'énerver, ils ont commencé à pousser les gens. Ils ont mis en fait ensuite les voitures et les camionnettes le long du trottoir pour que les gens restent sur le trottoir, pour les empêcher physiquement d'aller sur la route parce que ça commençait à devenir très dangereux. Les passants passaient à vélo et prenaient des photos, appelaient, mais sans regarder devant eux parce qu'ils étaient hypnotisés par ce qu'ils voyaient. La situation était assez compliquée physiquement dans la rue.
Théo, je crois que ce qui vous a particulièrement marqué, c'est un témoignage.
Oui, c'est ça. Comme le disait Mathieu, c'était une marée humaine, mais de gens hypnotisés et très tristes, touchés vraiment, parce qu'on l'a beaucoup dit depuis, c'est un morceau de notre patrimoine et c'est un monument qui parle à tout le monde. Et il y avait des touristes étrangers. J'ai vu des Américains qui comparaient ça, pour ceux qui l'avaient vécu à New York, à l'effondrement des tours le 11 septembre, quand là, ils ont vu la flèche de la cathédrale s'effondrer. Mais pour le témoignage dont vous parliez, oui, cette petite fille de 12 ans qui était avec sa maman, elles étaient venues sur le parvis parce qu'elles devaient visiter Notre-Dame aux alentours de 19h. Donc évidemment, elles n'ont pas pu rentrer puisque l'alerte a été donnée avant. En fait, la petite fille était en train de faire sa profession de foi là cette année. Elle devait bientôt avoir sa cérémonie et c'était la première fois qu'elle devait venir à Notre-Dame. Elle était vraiment très très triste et avec ses mots d'enfant et sa sincérité, elle m'a beaucoup touché et on l'a entendu le lendemain matin à 8h sur Europe 1.
Et on va la réécouter.
Moi j'ai des images, des grosses images qui vont me rester dans mon cœur à mon avis longtemps. C'est quand le bout de la chapelle, il est tombé. Là j'ai eu mon cœur qui s'est déchiré parce que bah, j'étais vraiment croyante, donc c'était la première fois que j'allais y aller. Mais là, c'est fini, il n'y a plus de Notre-Dame, ça fait mal au cœur. Il y a des morceaux de briques qui sont tombés à terre.
Les poutres, on les a vus tomber une à une, on a entendu le bruit, enfin, c'est terrible quoi. Le clocher est tombé en un seul morceau, un crépitement, une grande fumée blanche qui s'est propagée de l'extérieur.
Et ça, c'est choquant parce que pour les croyants, eh ben, c'est le symbole. Le pire, qu'une cathédrale s'effondre. Et moi, j'ai envie de dire un truc, une grosse pensée à tous les pompiers là qui sont en train de sauver la cathédrale.
Vous, Mathieu Bock, ce qui vous a marqué, c'est aussi ce sentiment de vivre un moment d'histoire en direct.
Oui, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont parlé du Bataclan, du 13 novembre. C'est-à-dire qu'ils avaient l'impression de vivre l'histoire qui est en train de se dérouler sous leurs yeux. Quelque chose de très choquant, c'est quelque chose qu'on n'imaginait pas. Et pourtant, c'est là, c'est sous ses yeux. Le 13 novembre, c'était un peu ça, sauf que c'était en huis clos, on n'a pas vu. Ici, c'était aux yeux de tous. C'est-à-dire que les gens voyaient Notre-Dame en train de brûler et les gens n'en croyaient pas leurs yeux. Et beaucoup m'ont fait le parallèle avec le 13 novembre. Beaucoup de gens ont été touchés personnellement. Et là, c'était un peu la même chose, c'est-à-dire que les gens se sont sentis, pas attaqués, mais blessés personnellement par cet incendie.
On va les écouter.
Voilà. Moi, je vois l'âme de Paris qui est en train de partir en flammes. C'est vraiment le monument le plus symptomatique du pays.
Et puis surtout, si on est tous venus ici, c'est parce qu'on a tous ressenti une émotion collective. Ouais. Moi, je suis pas catholique, je suis pas croyant, mais je sais pas, ça m'a fait quelque chose peut-être autant, je sais pas, plus que les attentats, mais d'une manière très importante. C'est vraiment quelque chose d'historique. Quoi.
J'étais à côté du 13 novembre quand ça est arrivé, et c'est... Il y a un sentiment d'un truc qui échappe là. C'est clairement l'âme de Paris, c'est Quasimodo, c'est une spiritualité, c'est plein de choses. C'est un monument incroyable.
Voilà pour le témoignage que vous avez recueilli, Mathieu Bock, avec heureusement comparaison, en gardant raison, un bilan qui n'a pas été aussi dramatique évidemment que celui qu'on a connu le 13 novembre 2015. Jean-Jacques Herry, vous, qu'est-ce qui vous restera de cette soirée ?
Bah écoutez, c'est une soirée que, quand j'entends Théo et Mathieu, je l'ai vécu assez différemment en ce qui me concerne. Parce que très vite, alors si j'ai vu effectivement tous ces gens autour des ponts, autour de la cathédrale, etc., au départ, lorsqu'on arrive sur le terrain, on doit tout de suite bosser. Donc on n'a pas trop le temps de se rendre compte. On essaye de gérer les liaisons techniques, on essaye de gérer tout ça.
Et la différence aussi par rapport à Mathieu et par rapport à Théo, c'est que vous n'êtes pas au milieu de ces Parisiens.
Absolument,
justement,
c'est ce que j'allais dire.
Venus communier un petit peu autour de cette cathédrale en feu.
Non, moi je me suis retrouvé sur une île de la cité qui était désertée, uniquement avec des pompiers, des élus, des officiels et des journalistes. Par contre, lorsque j'ai terminé et fait ma dernière intervention à l'antenne, je crois que c'était à minuit, sauf erreur de ma part, que j'ai quitté les lieux, j'ai récupéré mon vélo et là je suis sorti de l'île de la cité en vélo. Et j'ai eu la chair de poule. J'ai eu la chair de poule parce qu'il y avait encore une foule réunie sur les ponts en train de chanter des chants religieux.
Ces chants qu'on
et
va
je
entendre,
me suis retrouvé
justement.
À traverser ça.
C'est vous, Mathieu Bock, je crois, qui avez capté justement ces chants. Je crois que c'est vraiment ce qui est revenu dans vos trois témoignages, Théo, Jean-Jacques, Mathieu. Cette émotion qui est montée comme ça avec ces simples chants que vous avez entendus dans la rue.
Oui, surtout que, en fait, il y a 2-3 personnes qui ont commencé à chanter, presque en catimini, pour elles, en fait, juste pour elles. Et moi, j'étais au milieu et je commençais à enregistrer. Et 2, 3, 4, 5, 10, et puis au bout d'un moment, 30 ou 40 personnes chantaient en même temps. Et en fait, il y a des petits groupes comme ça, un peu partout, spontanément, autour de Notre-Dame, qui ont commencé à chanter.
Merci beaucoup à tous les trois d'avoir partagé avec nous ces moments forts quand on est reporter, parce qu'effectivement ça se passait au cœur de la capitale et on a bien vu l'onde de choc encore aujourd'hui avec cet événement. Vous avez tous été marqués par ces prières et justement on va retrouver un autre reporter dans un instant, Martin Fenot, qui a suivi une veillée de prières juste à côté de la cathédrale Notre-Dame pendant que le feu continuait à ravager la cathédrale.
13h, 14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
Europe 1. 13h21, on vous retrouve Fabienne Lemoyle pour la suite de notre émission Grand Reportage du samedi, tout terrain sur Europe 1.
Retour dans tout terrain sur l'incendie de Notre-Dame. C'était donc lundi soir avec Europe 1 qui s'est mis tout de suite en édition spéciale. Avant une matinale, mardi matin, présentée par Nikos Aliagas, en direct des abords de la cathédrale, où le feu n'était pas encore complètement éteint. Bonjour Martin Fenot.
Bonjour Fabienne.
Alors on a l'habitude de vous retrouver, Martin, dans tout terrain régulièrement, car on vous entend une semaine sur deux, juste après le journal de 7h, pour la séquence « Vous êtes où ce matin ?». Mardi matin, justement, vous étiez aux abords de la cathédrale pour cette matinale spéciale. C'est bien sûr l'actualité qui a bouleversé votre programme parce que généralement, en fait, on va le raconter, votre programme est établi en amont avec la rédaction en chef et avec Capucine Patouillet, qui est aussi l'assistante de cette émission de Tout Terrain. Et là, évidemment, ça a été branle-bas de combat, il a tout fallu changer.
Voilà, moi j'ai été appelé en fait par la rédaction en début de soirée, vers 20h, pour discuter un peu de ce qui se passe, parce que vous le disiez, moi j'avais déjà un reportage prévu pour la matinale du lendemain, puisque les sujets de la chronique sont préparés. Hein. Il y a l'exigence d'être en direct tous les matins à un endroit différent, donc ça impose d'anticiper. On établit une sorte de planning et on s'y tient, sauf en cas d'événement important dans l'actualité. Là, on s'autorise à bouleverser l'organisation de la chronique. Et ce soir-là, étant donné ce qui se passait, la violence des images, les réactions que ça suscitait, et étant donné aussi que je me trouvais hasard de calendrier en région parisienne.
Oui, parce qu'on va le rappeler, généralement, vous sillonnez la France.
Exactement, on sillonne la France avec Carole Ferry, que ce soit en région parisienne, mais beaucoup en province. Et donc, on a décidé de changer le sujet du reportage. Et donc, à ce moment-là, moi, je me rends immédiatement sur les lieux.
Alors, vous arrivez sur place. Contrairement aux autres reporters qu'on a entendus avant dans Tout Terrain, vous n'intervenez pas dans la spéciale. Vous travaillez pour le lendemain matin et vous devez donc choisir l'endroit et l'angle de ce que vous allez raconter.
C'est ça. Alors du coup, sur la route, moi, quand je me rends sur place, j'écoute à la radio ce que racontent mes collègues, qu'on vient d'entendre, qui interviennent en direct dans l'émission spéciale. Et ils décrivent en fait des scènes d'émotion, les Parisiens sous le choc, les touristes. Et j'entends des témoignages de croyants, de catholiques. Alors on en discute à nouveau avec mon rédacteur en chef au téléphone et on décide de chercher à rencontrer ces croyants, peut-être dans une église tout près de Notre-Dame de Paris. Donc quand j'arrive sur place, et là il y a une foule très dense qui regarde en l'air, qui observe en fait le toit de la cathédrale qui brûle. Et là, effectivement, j'entends d'abord des voix. Alors, ça ressemble à des chants religieux. Je me rapproche et je découvre à ce moment-là, sur un côté de l'église Saint-Julien-le-Pauvre, des dizaines de personnes qui prient. Certaines sont à genoux sur les pavés. Il y a une retraitée qui est en larmes, un homme accroupi qui ferme les yeux en serrant un chapelet dans sa main. Et donc, c'est comme ça que je décide de faire le reportage à cet endroit et d'interviewer ces gens qui se rassemblent et qui prient pendant l'incendie.
On va écouter justement des témoignages que vous avez recueillis avec des gens qui ont accepté de vous parler malgré l'émotion, on va l'entendre.
C'est particulièrement émouvant de se retrouver là avec une cathédrale qui brûle. Je vous parle de symboles, je vous parle de vie, je vous parle d'engagement. C'est juste épouvantable. Donc c'est pour ça qu'on chante tous en ce moment. C'est un moment très douloureux.
Moi j'ai tellement aimé Notre-Dame. Enfin, je vis ici, je l'ai vue des milliers de fois, je me suis arrêté devant elle. J'ai prié devant elle parce que je suis français, parce que je suis chrétien, parce que je suis un petit étudiant de Paris. Et que j'ai aimé la voir, tout simplement pour sa beauté, puis pour tous les siècles qui nous précèdent et qui l'ont contemplée, pour Victor Hugo aussi, qui doit être bien malheureux là-haut.
On entend l'émotion dans ces témoignages, Martin. Est-ce que ces personnes qui sont en prière, qui chantent, ont accepté facilement votre présence et de vous parler ?
C'était pas évident au départ, c'était un peu délicat parce que je sentais que c'était un moment de recueillement, mais en fait, toutes les personnes à qui j'ai demandé de prendre un moment pour répondre à une interview l'ont fait très volontiers. Ce qui se dégageait justement de ces interviews, c'est qu'il y avait d'abord la volonté de partager une certaine détresse, cette impuissance devant cette destruction en cours et la perte que ça représentait, notamment pour des catholiques. Et puis à chaque fois, dans un deuxième temps, comme pour contrebalancer cette tristesse, les gens exprimaient un sentiment d'optimisme. Ça se mêlait à un discours religieux, mais l'idée, c'était on va reconstruire, on va réparer la cathédrale. D'ailleurs, l'incendie était toujours en cours sous leurs yeux, que déjà, certains me disaient, on va faire un don, on va donner de l'argent pour aider à la reconstruction.
Merci beaucoup, Martin Fenot, et on vous retrouvera dans les semaines qui viennent sur les routes de France dans la séquence Vous êtes tous matin. Merci beaucoup, Martin.
À bientôt, Fabienne.
Europe 1.
Et on va poursuivre dans un instant cette page consacrée à l'incendie de Notre-Dame de Paris. Thierry Geffrotin va nous raconter son émotion face à la cathédrale en feu. Lui qui a pu la visiter il y a quelques années de fond en comble. Il nous racontera aussi ce moment de grâce mardi matin quand le violoncelliste Gauthier Capuçon a fait résonner sur Europe 1 son instrument face au tour de Notre-Dame de Paris.
Europe 1. Il est 13h29 et vous écoutez Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1. C'est jusqu'à 14h et avec vous Fabienne Lemoelle.
Retour dans Tout Terrain sur cet événement majeur, Notre-Dame de Paris en proie aux flammes. Un événement que les reporters d'Europe 1 vous ont fait vivre en direct dès lundi soir, avant une matinale spéciale, mardi matin avec Nikos Aliagas. Parmi les premiers sur le pont, il y avait vous, Thierry Geffrotin. Bonjour Thierry.
Bonjour Fabienne.
Spécialiste musique Europe 1 et grand amoureux des orgues de Notre-Dame de Paris. On va l'entendre dans un instant. Déjà Thierry, comment avez-vous appris que la cathédrale était en feu ?
Alors il se trouve que le lundi, je me lève très tôt parce que je suis dans la matinale avec Mathieu Noël. Je me lève vers 4h, c'est-à-dire que ma journée se termine assez tôt. Et je suis dans la rue vers 19h10, 19h15. Donc je ne suis plus à Europe 1, je suis tout près de chez moi. Et je vois un immense, mais quelque chose d'énorme panache de fumée dans le ciel. Et je me dis, mais c'est un incendie, c'est évident quoi.
Mais donc, vous ne pensez pas du tout que ça puisse être Notre-Dame de Paris ?
Pas du tout. Donc je rentre chez moi, j'allume la télévision. Dans ces cas-là, c'est ce qu'on fait, on écoute la radio, mais on allume aussi la télé pour voir les images quoi. Et je vois en effet que c'est Notre-Dame de Paris qui brûle. Et déjà, c'est très impressionnant. Et donc j'appelle la rédaction en chef, j'appelle Isabelle Poirodeau, et elle me dit, est-ce que tu peux venir ? Donc je lui dis, oui, je veux bien venir, je me suis levé à 4h... Est-ce que c'est pas dans une gestion de l'humain ? Est-ce que c'est pas mieux que je vienne demain matin, lui dis-je.
Et parce dit, que vous n'imaginez pas le scénario qui va se dérouler après.
À ce moment-là, on n'imagine pas. Et puis, je retourne, mais quelques minutes plus tard, devant la télé, j'écoute Europe et je dis, c'est pas possible, je peux pas rester. C'est à la fois angoissant personnellement et puis professionnellement, on se dit, on doit être sur le pont. Vous savez, à Europe 1, il y a quand même cette force. Dès qu'il se passe quelque chose, toutes les équipes, tous les journalistes, ça, ils vous le diront.
Et
ils
si reviennent. Ça vous touche au cœur à ce point-là, c'est qu'aussi vous avez visité de fond en comble Notre-Dame il y a à peine 2 ans,
alors,
je crois.
Alors, j'ai eu la chance, vraiment, j'ai eu 2 fois la chance de visiter Notre-Dame. Il y a 2 ans, j'étais à la tribune du grand orgue, parce qu'il se trouve que bon, je suis organiste et je connais Olivier Latry, qui est un des trois organistes du grand orgue, puisqu'il y, avait un autre, là pour le coup j'en parle à l'imparfait, parce que l'instrument du chœur, lui je pense a été détruit. Donc j'avais eu la chance d'assister à un office, c'est très impressionnant, hein. Moi je dis c'est un super tanker, hein. La console de Notre-Dame de Paris, des instruments comme ça, j'en ai jamais vu, 5 claviers, un pédalier, vous avez au-dessus de vous, vraiment un instrument en majesté avant même qu'il ne parle. Donc j'avais assisté à un office et j'avais eu la chance aussi, quelques années avant, de visiter tout, de fond en comble en effet, avec un ami prêtre, parce que t'es organiste, voilà, j'ai quelques connexions. Et à l'époque, il était chanoine à Notre-Dame de Paris, donc j'avais tout, tout absolument visité.
Et c'est lui d'ailleurs que vous essayez de joindre très vite.
C'est ça. Donc quand je reviens à Europe 1 vers 20h, je l'appelle en lui disant « Norbert, est-ce que tu as vu ?» Et il m'a dit « Écoute, j'ai arrêté la télé parce que c'est insupportable. » Vous imaginez, c'était son quotidien pendant 8 ans. Et puis voilà, même quand on n'a pas été à Notre-Dame spirituellement, vous imaginez ce que ça représente. Donc il me raconte tout ça. Là, pour le coup, c'est les deux amis qui se parlent. Quand j'arrive, donc je dis à la personne qui est en charge de caler les invités, je dis « Voilà, je vous signale que je connais quelqu'un qui n'est plus aujourd'hui à Notre-Dame de Paris, mais qui a passé 8 ans de sa vie, qui connaît l'endroit... » Il a vécu avec. Alors, il a accepté de parler. Ça a été un témoignage très, très fort, parce qu'il a redit, en effet, qu'il avait arrêté la télévision parce que c'était insupportable, insoutenable. Il a donné des informations sur l'édifice. Ouais, c'était très émouvant, en fait.
On va écouter les quelques mots, justement, sur l'antenne quand il intervient.
Je ne supporte plus les images. Hein, et ce n'est pas simplement une sensiblerie, mais ça correspond aussi à... On est touché en soi-même. Il y a la fameuse couronne d'épines. J'espère qu'elle a pu être retirée à temps, parce que c'est un trésor inestimable de la cathédrale. Il y a, enfin, c'est tout l'ensemble, c'est une unité, la cathédrale. Et donc, je pense que je ne vois pas bien comment on pourra, je pense même que ça me paraît un peu impossible, relever un tel bâtiment. Tous les événements de la France, récents ou anciens, se sont déroulés avec des échos à Notre-Dame de Paris.
On l'a dit, Europe 1 est en édition spéciale, bien évidemment lundi soir. Il est 20h54 quand vous intervenez vous-même à l'antenne, comme expert, avec, on va l'entendre, beaucoup d'inquiétude.
Thierry Geffrotin, d'un mot, on est en train d'arroser les tours, on craint pour les cloches de Notre-Dame, on l'entendait
oui,
tout à l'heure.
Il y a, au total, il y a 10 cloches. Il y en a 8 dans la tour nord et 2 gros bourdons dans la tour sud. La plus grosse cloche pèse 13 tonnes. Et tout ça, c'est supporté par une charpente. Donc vous imaginez, je pense que les images qu'on voit, les pompiers arrosent maintenant la façade, les tours, je pense que c'est pour refroidir le bâtiment et sans doute éviter le pire.
Alors les invités se succèdent bien sûr à l'antenne. À 21h54, vous intervenez de nouveau, vous êtes encore plus ému.
J'avais eu la chance de visiter vraiment de fond en comble, du sol au plafond. J'avais vu l'orgue de très près, j'ai vu un des organistes, Olivier Latry. C'est un lieu que je connaissais, j'en parle à l'imparfait, parce que à mon sens, là, ce qu'on voit, c'est terrible. Et non seulement la nef a été détruite, mais les pompiers maintenant, non seulement ils protègent la tour nord, mais je pense qu'ils luttent contre l'incendie qui a gagné la tour nord. Et sous ces deux tours, il y avait un instrument, j'en parle aussi à l'imparfait, parce que je pense que les tuyaux d'un orgue, puisque c'est de l'orgue de Notre-Dame de Paris dont je vais vous parler, les tuyaux sont soit en bois, soit dans un alliage qui est fait notamment avec de l'étain. Ben voilà, l'instrument a dû fondre. C'est un instrument historique, c'est une œuvre d'art unique. De nombreux organistes sont venus jouer. Et tout récemment, l'un des organistes, il y en a 3 de Notre-Dame de Paris, Olivier Latry, avait enregistré un disque « Back to the Future ». Au moment où je suis entré dans le studio, parce que j'ai appris que maintenant les pompiers essayaient de protéger la tour nord, j'écoutais cet enregistrement de l'orgue. Évidemment, c'est une émotion incroyable d'entendre Jean-Sébastien Bach en se disant que aujourd'hui, bon, je ne suis pas dans la nef, mais je pense que cet instrument n'existe plus. En plus de tout ce que nous avons vu, cette flèche qui s'est effondrée de Viollet-le-Duc, c'est un drame que nous vivons là en ce moment.
On sent votre émotion, hein, Thierry, ce souffle coupé, on va le dire, on a l'habitude de travailler ensemble.
Oui. C'est très particulier parce que je reste journaliste évidemment, mais quand je parle de l'instrument, je pense à tout ce que j'ai vécu. Je l'ai entendu pas seulement en disque, dont je rappelle, mais moi je dis toujours, les nombres de tuyaux, c'est pas très important. Il y a près de 8000 tuyaux à Notre-Dame de Paris, hein.
Alors, vous parlez de l'orgue à l'imparfait à ce moment-là de la soirée.
Oui.
Final, il a donc été ce grand orgue sauvé, mais il est dans quel état exactement ? Alors, qu'est-ce qu'on en sait précisément ?
Alors, donc, le feu, non, ne l'a pas atteint. L'eau non plus la suie, c'est-à-dire que l'instrument est inutilisable puisque voilà, il y a de la suie, il va falloir le déposer, je vous disais, les 8000 tuyaux, ensuite et les nettoyer un par un. Alors je pense que tout ça, ça va partir chez le facteur d'orgue qui s'était occupé de la restauration, la
c'est-à-dire
dernière restauration.
C'est-à-dire qu'on va démonter, je vous le disais, chaque tuyau un par un.
Un par un,
d'accord.
Et tout ça, ça va partir, je pense, chez le facteur d'orgue qui s'est chargé de la restauration en 2014. Parce que j'imagine mal un chantier sur place. On voit comment est aujourd'hui Notre-Dame de Paris.
Et pour l'instant, il n'a pas été démonté encore.
Ah, pour l'instant, on n'a touché à rien. Parce que vous savez, on dit l'orgue est sauvé, mais je pense qu'il y a des travaux très importants sur les deux tours, sur les deux beffrois, où je vous rappelle, dans la tour nord, il y a 8 cloches. Dans la tour sud, il y a 2 cloches, mais il y a un bourdon de 13 tonnes. Vous imaginez si les tours sont quand même fragilisés, hein. Il va falloir faire des travaux d'urgence et l'orgue est épargné. Mais
parce que si la structure
attendre.
Est là, il y a une instabilité je que pense, tout le monde redoute. Ouais, effectivement, pense, déplacer ouais, le moindre ouais. élément peut jouer ouais, sur
oui,
la structure.
Oui, ouais, là, mais je pense que là, tout le monde est très attentif à ce qui se passe en ce moment à Notre-Dame de Paris. L'incendie est éteint et c'est heureux, mais rien n'est réglé en fait. Hein.
Vous restez avec nous, Thierry Geffrotin, et dans un instant, vous allez nous raconter ce moment de grâce que nous avons entendu mardi matin sur Europe 1. C'était Gauthier Capuçon face au tour de Notre-Dame avec son violoncelle. C'était dans la matinale spéciale présentée par Nico Saliagas.
Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
13h40, tout terrain se poursuit avec vous Fabienne Lemoyle.
Et nous retrouvons Thierry Geffrotin pour cette longue page consacrée, vous l'avez compris, à l'incendie particulièrement spectaculaire qui nous a fait craindre le pire lundi soir à Notre-Dame. Édition spéciale donc avec Mathieu Béliard, puis matinale spéciale le lendemain matin, mardi, avec Nico Saliagas aux abords de la cathédrale. Et ce moment de grâce, je le disais, quand Gauthier Capuçon a fait résonner en direct sur Europe 1 face à la cathédrale son violoncelle. Vous allez nous raconter la scène, Thierry, dans un instant. Mais d'abord, à quoi ressemblent les abords de la cathédrale quand vous arrivez mardi matin?
Alors moi j'arrive à 6h du matin, il fait encore nuit, hein, aussi bien que je vois se dessiner la tour sud au fur et à mesure que j'avance vers le quai de Montebello.
Là, la tour toujours
oui.
debout.
Et là c'est à la fois c'est très beau, mais c'est en même temps très angoissant, parce que je découvre en fait, parce que je ne suis pas allé la veille, hein, donc je découvre, voilà. Ce qui s'est passé, les pompiers sont encore là. Évidemment, il y a encore des lances qui sont en action. Elles seront en action encore des nombreuses heures. Donc, c'est assez c'est lunaire, quoi. Il y a quelque chose d'irréel. Et en même temps, bah, il faut bosser, puisqu'on prépare la matinale.
Alors, il y a eu cette scène très émouvante. Le violoncelliste Gauthier Capuçon qui a fait résonner son instrument. Et c'était en direct sur Europe 1.
Gauthier Capuçon, en musique. Sur le trottoir.
Que joue Renaud Capuçon alors, c'est du Gabriel Fauré.
Oui, c'est ça. Il a choisi de jouer une mélodie de Gabriel Fauré qui s'appelle « Après un rêve ». Alors, théoriquement, c'est pour un chanteur, hein, mais le violoncelle, il imite parfaitement la voix. C'est doublement symbolique. Hein. Déjà, le titre « Après un rêve », on se demande si ce n'était pas un rêve, un cauchemar en l'occurrence.
Et sachant qu'il était, lui, la veille, justement, aux abords de Notre-Dame,
voilà,
très ému.
Très ému. Et puis, l'autre symbolique, Gabriel Fauré, grand compositeur français, était lui-même organiste. Alors, il n'a pas été organiste à Notre-Dame de Paris, il était organiste à la Madeleine. Donc, on comprend pourquoi Gauthier a choisi cette mélodie qui est une lamentation. Hein. Comme on l'entend, là, c'est après un rêve, mais en effet, ça doit être un rêve douloureux qu'a mis en musique Gabriel Fauré.
Racontez-nous la scène, on est là sur le trottoir.
Alors, on a été à plusieurs endroits du trottoir. Dans un premier temps, on a pu être le long du quai de la Seine. Et puis, la police est arrivée, nous a demandé de passer de l'autre côté de la rue. Alors, on s'est installé à un premier endroit. Vous imaginez la foule qui voit un violoncelliste qui s'installe. On pense immédiatement à Rostropovitch au pied
du mur de Berlin. Bien sûr.
Hein. Le temps que j'aille, je fasse un bout de chemin jusqu'au camion, je reviens, je ne les vois plus. Ils ont encore bougé. Vous voyez, c'est assez acrobatique. Hein. La pluie, parce que Gauthier est venu avec, non pas son violoncelle, mais son épouse, mais c'est un instrument quand même, c'est fragile.
Et je vous ai vu armé d'un parapluie.
Donc, c'était pas pour, comment dire, mimer Gene Kelly dans Singing in the Rain, mais un instrument, ça a du prix aussi. Hein, donc, j'ai tenu le parapluie pendant qu'il jouait cette mélodie. C'était un moment très fort aussi, hein, parce que on arrive.
Un moment de communion, vraiment.
Oui, d'un seul coup, alors que rien n'est joué derrière nous. Hein, on voit bien, les pompiers sont à l'œuvre, même aujourd'hui. Hein, on sait que tout reste à faire pour Notre-Dame de Paris. Et là, il y a la force de l'art, la puissance de cet artiste. Alors, c'est symbolique tout ce qu'il fait, mais c'est très émouvant.
Merci beaucoup Thierry Geffrotin, et je le disais, vous êtes le spécialiste musique d'Europe 1, et au-delà de ça, on l'a bien compris à travers cette séquence et à travers votre émotion, ce besoin aussi de faire partager aux auditeurs votre amour des orgues, organiste vous-même, hein, on l'a bien compris. Je cite un livre qui vient de sortir, Un point d'orgue et c'est tout, des nouvelles de la musique que vous avez écrit avec des dessins de Claude Turier. En un mot.
Alors, ce sont des nouvelles tout autour de la musique. Il y en a une d'ailleurs sur un organiste. Alors, la plupart sont assez autobiographiques, je tiens à le dire. Celle de l'organiste qui accueille un couple de futurs mariés qui veulent absolument la toccata et fugue. Vous savez, la toccata et fugue de Bach, et cet organiste qui est moi en fait, et qui refuse de jouer en disant oh non, vous n'allez pas m'imposer de jouer la toccata et fugue de Bach.
Voilà, un beau prolongement en tout cas pour nos auditeurs. Ils peuvent, je crois, vous envoyer un petit mot s'ils veulent en savoir plus justement sur ce point d'orgue et c'est tout. Qui est édité avec l'Académie Alphonse Allais.
Avec la complicité de l'Académie Alphonse Allais. Je salue Xavier Jaillard, qui a été le maître d'œuvre de ces nouvelles.
Merci beaucoup Thierry Geffrotin de nous avoir fait partager ces moments. Voilà pour cette longue page consacrée à la mobilisation de la rédaction d'Europe 1 pour vous faire vivre Notre-Dame en proie aux flammes. Voilà pour le témoignage donc des reporters, auxquels j'associe bien sûr le formidable travail de toutes les équipes techniques de la station, des programmateurs, des rédacteurs en chef. Et donc ce moment suspendu que nous a offert Gauthier Capuçon, qui jouera ce soir aux Invalides lors du grand concert retransmis sur France 2 pour collecter des fonds pour la reconstruction de la cathédrale, un concert auquel s'associe Europe 1.
Europe 1.
Dans un instant, tout à fait autre chose, le combat d'une jeune Iranienne pour pouvoir boxer. Et vous allez l'entendre, ce combat ne se joue pas que sur le ring.
Europe 1. Il est tout juste 13h48 et on vous retrouve Fabienne Lemoelle pour la dernière partie de Tout Terrain. Après Notre-Dame, c'est une autre dame qui est mise à l'honneur.
Et on termine l'émission en mettant à l'honneur une femme. Elle s'appelle Sadaf Kadem, elle a 24 ans et samedi dernier, elle est devenue la première femme iranienne de l'histoire à participer à un combat de boxe officiel. Une victoire, vous allez le comprendre, qui va bien au-delà du sport. Cette victoire, c'était à Royan, sous les yeux de Simon Rubin.
Vainqueur à l'unanimité des juges.
Sadaf Kadem est en larmes sur le ring. Dans sa tenue aux couleurs de l'Iran, vert, blanc et rouge, elle vient de remporter le premier combat de boxe officiel d'une Iranienne. En transe, elle sautille un peu partout, tombe dans les bras de son adversaire et de la juge arbitre. En 3 rounds de 2 minutes, elle a marqué l'histoire.
Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Du service des sports d'Europe 1, c'est vous qui avez donc suivi ce combat, on vient de l'entendre, et vous avez surtout suivi la préparation de cette boxeuse. Et quelle boxeuse ! Quel parcours pour en arriver là ?
Alors c'est un parcours qui commence dès l'enfance pour elle, hein, Sadaf Kadem. Elle est donc née à Téhéran, en Iran. Toute petite, elle va tomber sur une vidéo, un film, qui raconte la vie d'une jeune femme indienne qui rêve de faire de la boxe dans un monde d'hommes où il est interdit de boxer. Et donc elle va vouloir faire la même chose. Hein. C'est vraiment un film qui fait comme un écho à sa propre histoire. Et donc très tôt, très jeune, elle va rêver de faire de la boxe. Finalement, elle va en faire un petit peu plus tard, parce qu'il faut rappeler qu'en Iran, c'est interdit, les femmes n'ont pas le droit de boxer. Alors Sadaf Kadem, aujourd'hui, elle est prof de fitness dans un club privé de Téhéran. Et du coup, grâce à ce club, le soir, une fois que c'est fermé, elle peut boxer, elle peut s'entraîner.
Donc, dans un cadre, on va dire, privé du coup.
Complètement privé, complètement caché, secret, quasiment personne ne la voit, mis à part ses partenaires d'entraînement, qui sont parfois des femmes, plus souvent des hommes. Et puis, il y a 2 ans, elle va assister à un atelier de boxe qui est mené, dirigé par Mayar Monshipour. Mayar Monshipour, il est franco-iranien, il a été champion du monde de boxe sous les couleurs de la France, il habite en France depuis tout jeune, et il organise cet atelier de boxe sur les hauteurs de Téhéran, et elle va y aller, et là, elle va surtout toucher du doigt son rêve, et du coup, elle va rester en contact avec Mayar Monshipour, et elle va commencer à lui écrire en lui disant je veux boxer, je veux faire un combat officiel. Donc pendant un an et demi, eh bien Maillard Monchipour, il va l'écouter et il va tout faire pour organiser ce combat et notamment contacter le ministère des Sports, le ministère des Affaires étrangères, parce qu'il va falloir exfiltrer Sadaf Radem, en tout cas.
Quand vous dites contacter le ministère des Sports et des Affaires étrangères, vous parlez du ministère des Affaires étrangères en France. Oui.
Qui vont œuvrer pour lui accorder un visa à Sadaf Radem, lui accorder aussi une licence de pratiquante de boxe. Donc elle va sortir du pays, elle était déjà sortie du pays, elle est d'une famille plutôt aisée, qui a des moyens, les moyens de lui payer un billet d'avion notamment. Donc elle va réussir à sortir, et puis là, eh bien, c'est tout ce cheminement de quelques semaines en France pour arriver au combat. C'était donc samedi dernier, on l'a entendu dans le court extrait, une salle pleine, il y avait 1000 personnes à Royan, c'était assez extraordinaire.
Ouais.
Assez extraordinaire de voir ce monde-là qui était venu pour ce moment historique. Et tout simplement, on va entendre les mots de Sadaf Radem juste après son combat, au micro, devant toute la foule, et elle expliquait finalement les raisons de toute sa démarche.
J'avais un rêve, c'est devenu réalité. Et maintenant, cette réalité va devenir une légende. Et je dis à toutes les femmes, vous êtes fortes, rien n'est impossible. Quand on est une femme, on se bat pour toutes les femmes, nos mères, nos grand-mères, nos filles et petites filles. C'est un combat ancestral, une force qui se transmet de génération en génération.
Donc ces mots-là, il les tient sur le ring après sa victoire, c'était donc samedi dernier à Royan. On pourrait imaginer que depuis elle est repartie en Iran, sauf que c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé.
Oui, c'était le plan. Elle devait rentrer avec son entraîneur Maillard Monchipour en Iran, ça devait être mercredi. Maillard Monchipour, le franco-iranien qui avait d'ailleurs prévenu pas mal de fans, ses fans à lui et puis ses fans à elle. Elle est suivie sur les réseaux sociaux, sur Instagram, par des milliers de personnes, notamment des Iraniens et des Iraniennes. Et donc
c'est devenu quelque part, si ce n'est une icône, en tout cas un modèle pour l'émancipation aussi des femmes, j'imagine.
Complètement, complètement. D'autant que ce combat, là, on a entendu quelques extraits, il a été diffusé à la télé iranienne. Alors sur le câble, une chaîne privée, mais c'est une chaîne iranienne basée à Londres qui l'a diffusé en direct en Iran. Donc elle est maintenant vraiment connue en Iran, les gens en parlent. Et donc Maillard Monchipour, l'entraîneur, s'était dit « je vais rameuter du monde à l'aéroport, ça va la protéger ». Le problème, c'est qu'en allant à l'aéroport à Charles de Gaulle du côté de Paris, Maillard Monchipour a eu un texto et c'est à ce moment-là qu'il a appris que lui et Sadaf Radem, sa boxeuse, étaient visés par un mandat d'arrêt émis par le régime iranien. Et donc, ils ont dû rebrousser chemin. Tout simplement, elle l'explique, Sadaf Radem, parce qu'elle a combattu sans hijab, en short, en débardeur, avec un entraîneur homme. Ça ne plaît pas. Et ça, c'est d'ailleurs une situation, le fait d'être finalement forcé à l'exil, qu'elle avait bien en tête avant son combat.
Je me bats contre tout ce qui est interdit sans raison. Je sais que ça ne plaît pas en Iran, que je prends un risque en venant en France. Mais je comprends même pas pourquoi. Je veux juste que les femmes soient libres de boxer.
Sadaf Radem et Maillard Monchipour, qui avaient donc prévu de voyager un petit peu partout en Iran. Ils avaient prévu d'aller à Téhéran, d'aller dans l'Ouest pour rencontrer des femmes, rencontrer des associations, mener des ateliers de boxe. Bon, tout ça est tombé à l'eau. C'est pour le moment annulé.
Ça veut dire qu'elle est bloquée en France ? Elle est dans quel état d'esprit ?
Alors là, effectivement, elle est bloquée en France. Elle est à Poitiers, elle est hébergée par Maillard Monchipour, son entraîneur. Sadaf Radem, pour le moment, elle prend son mal en patience. Tous les jours, elle s'entraîne. Elle reste assez
active. Parce
qu'elle
a sa famille là-bas.
Elle a tout le monde. Elle a sa famille qui est là-bas, effectivement. Ici, en France, elle connaît Maillard Monchipour, mais c'est bien tout. Elle parle pas français.
Elle n'est pas venue dans l'esprit de rester ici, on est bien clair.
Absolument pas. Le plan, c'était de revenir. Elle avait un visa qui durait un mois, donc elle ne pouvait pas de toute manière s'éterniser. Elle reste donc, je le disais, très active sur les réseaux sociaux, mais elle, comme son entraîneur, veulent un petit
peu
calmer le jeu.
Parce que j'imagine que vous les avez sollicités, bien évidemment.
Bien évidemment, pour l'instant, Maillard Monchipour qui nous dit, on va attendre de voir comment la situation évolue. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'apaiser le climat avec le régime iranien et de solliciter surtout le concours, l'aide du ministère des Sports et du ministère des Affaires étrangères en France pour essayer de temporiser. Je donne un exemple, après son combat, Sadaf Radem, elle a eu un discours très patriotique, saluant les personnes qui s'étaient battues, qui avaient fait la guerre pour l'Iran. Ce qui est intéressant, c'est qu'au final, à travers l'histoire de cette jeune femme, on prend la mesure de ce que c'est qu'être un symbole politique et une combattante pour les droits humains. C'est quelque chose qui est glorieux, qui est beau d'un côté, mais c'est un poids à porter de l'autre.
Et on a bien compris que le combat ne se passe pas que sur le ring. Merci beaucoup, Simon Rubin.
Europe 1.
Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Mathieu Bock, Théo Manval, Jean-Jacques Herry, Martin Fenot, Thierry Geffrotin et à l'instant Simon Rubin. Un grand merci aussi à Kevin Ousty pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Et je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout Terrain en podcast sur europe1.fr. Demain à 13h, vous ouvrirez les carnets du monde avec Sophie Larmoyer.
Et c'était Fabienne Lemoyle. Merci Fabienne. Dans un instant, le témoignage de Céline Raphaël. À travers le récit de Christophe Ondelat, on va découvrir comment un père a massacré l'enfance de sa vie, de sa fille, en voulant faire d'elle un prodige du piano. Ondelat raconte. Tu seras pianiste, ma fille, c'est juste après les infos.